Bonjour frères et sœurs et bon sabbat. Je vous invite à réfléchir à la réponse de la question suivante. Quel est le point commun d'entre les trois choses suivantes? Numéro 1. La procédure de mise en accusation du président américain. Numéro 2. Le Brexit. Numéro 3. Le programme de Flying Blue d'Air France. Alors, je peux vous nommer un mot qui résume le point commun d'entre ces trois choses. Le mot, c'est fidélité, la fidélité. Le mot fidèle, un mot qui est issu du latin classique fidelis, qui signifie en qui l'on peut avoir confiance. Ça signifie sûr ou loyal, solide, ferme. Mais c'est le mot « la fidélité ». Récemment, le Sénat américain a passé une décision au vote concernant l'appel ou non de témoins supplémentaires pour la mise en accusation du président américain. Le vote est passé avec 51 contre et 49 pour l'appel de nouveaux témoins. Nous observons une mise à l'épreuve de la fidélité des membres de la partie républicaine aux États-Unis. Concernant le Brexit, nous constatons que l'Union européenne perdra l'un de ses membres les plus puissants. On peut comprendre que si le Brexit a été approuvé, c'est car le Royaume-Uni mettait ses propres intérêts en priorité supérieure à ceux de l'Union européenne. C'est pour ça qu'il faut une séparation. D'un point de vue des Anglais, on peut dire que l'Union européenne n'a pas été fidèle au Royaume-Uni. De l'autre côté, on peut estimer que le Royaume-Uni n'est pas resté fidèle à l'Union européenne. Pour ce qui concerne le troisième point, le programme Flying Blue chez Air France. Si vous achetez plus de billets d'avion chez Air France, ils vont vous donner des bénéfices pour votre loyauté, pour votre fidélité. Dans ce cas, le programme est gratuit, mais ce n'est qu'en dépensant de l'argent chez eux que vous ayez accès aux bénéfices. Voilà les trois contextes dans lesquels la fidélité a été en question. Est-ce que les membres d'une partie politique restent toujours fidèles? Non. Mais des fois, ils sont mis au test pour tester leur fidélité face à une décision importante. Dans le deuxième contexte, nous avons observé que les nations ne restent pas toujours fidèles aux accords, en particulier les accords qu'ils ont avec d'autres nations. Dans le troisième contexte, on a observé qu'on ne reste pas toujours fidèle envers des entreprises, des associations ou des programmes de fidélité. Peut-être on reste un peu fidèle, mais peut-être pas. Est-ce que ça dépend aux bénéfices que nous allons recevoir dans ces programmes de fidélité? Est-ce que c'est une fidélité avec conditions? Bon, en général, nous avons un sujet très intéressant pour les membres de l'Église de Dieu, parce que les membres de l'Église de Dieu représentent un groupe avec qui Dieu est en train de travailler. Dieu, bien sûr, est en train de préparer ses prémices. Des fois, nous avons besoin de rappel de jusqu'à quel point Dieu travaille avec les siens. Quand nous considérons l'exhortation de l'apôtre Pierre dans 1 Pierre 2, versets 9 à 10, nous pouvons constater la signification profonde de l'appel de Dieu. 1 Pierre 2, versets 9 à 10. 1 Pierre 2, versets 9 à 10. Pierre écrit: « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, qui maintenant avez obtenu miséricorde. En tant que membres de l'Église de Dieu, nous sommes censés d'annoncer les vertus de Dieu. D'annoncer les vertus de Dieu, comme Pierre l'a expliqué, c'est pour ça que nous sommes appelés une nation sainte spirituelle aujourd'hui. Nous avons un rôle de montrer l'exemple, d'être une lumière pour le monde. Et aujourd'hui, dans ce sermon, pour entreprendre les paroles de l'apôtre Pierre, j'annonce une vertu de Dieu. J'annonce sa fidélité. Nous allons examiner aujourd'hui la fidélité depuis trois points de vue différents. Le premier point de vue, c'est la fidélité de Jésus-Christ au Père. La fidélité de Jésus-Christ au Père. Le deuxième point de vue, c'est la fidélité de Dieu envers nous. Ces deux points de vue devraient nous rappeler de l'importance de notre troisième point de vue aujourd'hui, c'est notre fidélité envers Dieu. Autrement dit, la fidélité d'une nation sainte, d'un peuple acquis, d'une race élue. Sommes-nous fidèles au poste? Commençons maintenant avec notre premier point de vue sur la fidélité de Jésus-Christ au Père. Considérons d'abord Hébreux chapitre 13, Hébreux chapitre 13 et le verset 8. Comment savons-nous que Dieu est fidèle? Comment savons-nous que Jésus-Christ était fidèle? Hébreux chapitre 13 et le verset 8 nous indique « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. » Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus-Christ est fidèle au Père. Donc, il a toujours été fidèle au Père et il le sera pour toujours. Jésus-Christ, le Logos, était avec le Père à la création. Considérons en passant Genèse chapitre 1 et le verset 26. Genèse chapitre 1 et le verset 26. Genèse 1, verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Ici, le mot hébreu, Elohim, est employé pour souligner la pluralité de Dieu. Ceci nous aide à comprendre que le Père et le Fils étaient un dans le sens que les deux étaient d'accord. Si Jésus-Christ n'est pas indépendant de Dieu le Père, comme on prétend des fois, comment Jésus-Christ a-t-il pu démontrer sa fidélité envers son Père? Pour faire la volonté du Père, Jésus-Christ a endossé la persécution. Il a souffert jusqu'à la mort, sans jamais pécher. Il est éternellement pareil. Il a démontré par sa vie qu'il est toujours fidèle. Il a été fidèle au Père hier, il est fidèle au Père aujourd'hui, et il sera fidèle au Père éternellement. Lors de son retour, Jésus-Christ, en tant que roi des rois, sera toujours fidèle au Père. Considérons maintenant Hébreux chapitre 10. Hébreux, chapitre 10 et le verset 23. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. La fidélité de Dieu n'est pas limitée entre le Père et le Fils. La fidélité de Dieu est aussi envers nous. Donc ça nous amène à notre deuxième point. La fidélité de Dieu envers nous. Dieu est fidèle envers sa création, ce qui est encore plus touchant, plus personnel pour nous, c'est que Jésus-Christ est fidèle à ses disciples. Il nous a été fidèle lorsque nous étions des pécheurs, entre guillemets, hier. Il nous est fidèle aujourd'hui, même si nous trébuchons de temps en temps, et il ne nous abandonnera jamais. Donc, il nous sera toujours fidèle. Il sera fidèle au Père et à ses disciples. Considérons 2 Timothée chapitre 2. 2 Timothée chapitre 2 et le verset 13. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle. Ceci fait partie de plusieurs points que l'apôtre Paul a abordé avec Timothée concernant comment se comporter comme un chrétien, comme un disciple de Jésus-Christ. Avons-nous confiance en Jésus-Christ? Qu'est-ce qui fait que nous ayons la confiance en lui? Cette conception de la fidélité de Dieu, que nous avons déjà discuté ici, la fidélité de Dieu envers nous, apparaît dans l'Ancien Testament par le mot hébreu « chesed ». Quand on trouve la traduction de ce mot en français dans la Bible, on voit que c'est souvent associé avec la miséricorde ou l'amour. Par contre, les dictionnaires bibliques nous disent qu'il faut comprendre Hesed comme une loyauté envers l'Alliance. Alors, ce mot est souvent employé dans le contexte de la fidélité de Dieu envers son Alliance, que ce soit avec le peuple d'Israël, que ce soit avec nous en tant que membres de l'Église, il nous est fidèle. Donc, considérons le psaume 145. Psaume 145, le verset 10. Quand on se rend compte que nous sommes créés par un Dieu fidèle, cela devrait nous motiver. Ce monde voudrait qu'on abandonne la voie de Dieu, que l'on ne soit pas fidèle. Quand nous considérons la fidélité de Dieu envers nous, est-ce que cela nous donne une nouvelle perspective sur la vie, sur notre rôle en tant que membre de l'Église de Dieu? Est-ce que nous pouvons dire « j'ai été bon hier, je suis toujours bon et je serai toujours fidèle » Dieu est tout puissant. Il pourrait se décider de ne pas être fidèle et personne ne pourrait l'opposer. Dans le monde, quand une personne est au pouvoir, des fois, il se trouve qu'il ne soit pas fidèle. Par exemple, il est possible que cette personne se considère au-dessous de la loi, donc Ça veut dire qu'ils sont permis à faire ce qu'ils veulent. Mais Dieu n'est pas comme ça. Même s'il nous a créés, même s'il nous a donné la vie, il n'est pas en train d'abuser, d'oublier son alliance avec son peuple. Psaume 145 et le verset 10. Toutes tes œuvres te loueront, ô Éternel, et tes fidèles te béniront. Toutes tes œuvres te loueront, ô Éternel, et tes fidèles te béniront. Est-ce que nous sommes des œuvres de l'Éternel? Oui, nous sommes des personnes en train d'être formées pour un avenir merveilleux. Dieu nous a appelés aujourd'hui, les membres de son Église, il nous appelle d'être des prémices, pour préparer ses prémices pour le retour de son Fils Jésus-Christ. Donc, c'est le Père qui nous attire, et puis c'est Jésus-Christ que nous attendons pour lors de son retour, un grand changement qui aura lieu. Il est en train de travailler avec nous et de nous préparer pour ce jour, ce gros changement. Donc, même si nous avons tous péché dans la vie, tout le monde a péché, Jésus-Christ est le seul d'avoir vécu qui n'a jamais péché. Nous avons tous commis le péché. Par contre, pour Jésus-Christ, il n'y a jamais eu d'infidélité. Il était toujours fidèle. Il est fidèle, il le sera toujours envers son Père et envers nous. Donc c'est pour ça que la fidélité est l'une des vertus de Dieu et ça nous aide avec une bonne compréhension de Dieu. Comment comprendre celui qui nous a créés? S'il est toujours fidèle, nous sommes en paix. Si nous comprenons que c'est sa main qui nous soutient, c'est lui qui nous prépare pour un avenir, c'est lui qui nous a appelés. Si on comprend toutes ces choses, qu'il s'occupe de nous, alors nous sommes quand même plus à l'aise, plus en paix, parce que nous savons que nous avons un Dieu qui nous aime, qui s'occupe de nous et de nos besoins. Considérons maintenant le verset 20. Si on revient maintenant, pardon, si on revient pardon, 1 Pierre 2, Pierre chapitre 2 et le verset 20. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ a aussi souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Des fois, quand on lit ce passage, comme moi je le lis, j'y mets mon nom pour avoir plus d'impact. Des fois, je dis Jésus-Christ a souffert pour Daniel, lui laissant un exemple, afin que Daniel suive ses traces. Parce que c'est ma responsabilité de suivre ses traces, d'imiter sa fidélité envers moi. Continuons avec le verset 23 maintenant. Lui qui injuriait ne rendait point d'injures, maltraitait, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéri, car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le berger et le gardien de vos âmes. Quand nous considérons ce qu'il a fait pour nous, tout ce que nous venons de lire, la manière avec laquelle il a souffert. Quand nous considérons ces choses, et lorsque nous étions toujours des pécheurs, sommes-nous fidèles comme lui? Est-ce que nous pouvons dire que nous sommes fidèles comme lui? Considérons maintenant 1 Pierre chapitre 4 et verset 19. 1 Pierre 4 et le verset 19. Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. En faisant ce qui est bien. C'est notre volonté d'être fidèle à Jésus-Christ qui a souffert pour nous, à Dieu le Père qui s'occupe de tous nos besoins, qui connaît chaque besoin, même avant que nous demandions. Donc ceci nous amène à un troisième point de vue sur la fidélité. C'est notre fidélité envers Dieu. Comment comprendre ce que c'est notre fidélité envers Dieu? Dans le monde aujourd'hui, la fidélité perd son sens. La fidélité n'est des fois valable qu'au moment que quelque chose de meilleur est disponible. La fidélité n'est valable qu'au moment que nous ne sommes pas d'accord, des fois. Dans le passé, on dirait peut-être plus souvent oui. C'est une bonne chose de rester fidèle, que ce soit dans la famille ou que ce soit dans le commerce. Par exemple, à la banque, l'avantage de rester fidèle à sa banque, l'avantage pour eux, c'est qu'ils nous connaissent de mieux en mieux avec notre historique bancaire. Mais de notre côté, ils seront aptes à nous aider quand nous avons besoin de quelque chose. C'est ça, la relation avec la banque dans le passé. Au moins, c'est ce qui a été prévu. Je me souviens de quelqu'un qui m'avait expliqué comment il était resté fidèle à sa banque pendant 20 ou 25 ans, car ils avaient établi une relation étroite avec un agent. Ils vivaient dans la même communauté. Il se voyait de temps en temps en ville. Donc chaque fois qu'il demandait un prêt ou un produit bancaire, l'agent a pris le temps de discuter le besoin et toutes les options pour rendre service le plus que possible. Aujourd'hui, les choses ont beaucoup changé. Par exemple, disons que j'ai un compte bancaire et une carte de crédit à ma banque. Cette carte de crédit me donne des bénéfices si je dépense de l'argent en utilisant la carte. Plus je dépense, plus j'ai des bénéfices. Mais j'ai pas vraiment besoin aujourd'hui d'aller parler avec les agents parce que beaucoup de choses se passent en ligne. Et donc, on a de moins en moins une relation étroite avec les personnes à la banque. Mais d'autres banques sont au courant du fait que j'ai une carte de crédit. Donc, ils commencent à m'envoyer des offres pour essayer de me convaincre que je ferais mieux de m'inscrire pour une carte de leur banque. Ils m'envoient ces offres avec la perspective que ma fidélité envers l'autre banque n'est pas solide. Il est possible qu'ils aient raison, mais si ma banque fait de leur mieux pour répondre à mes besoins bancaires, s'ils sont fidèles envers moi et s'ils ne font pas d'erreur, est-ce que je leur dois ma fidélité? Dans un sens, quand il s'agit de notre relation avec Dieu aujourd'hui, l'esprit derrière le monde actuel est toujours en train de nous proposer une meilleure offre. Le monde nous dit que si nous quittons la bonne voie, le monde sera là pour nous accueillir avec des bénéfices immédiats. Considérons maintenant Matthieu chapitre 25 Matthieu chapitre 25. Donc la fidélité aujourd'hui, est-ce que la fidélité a même une vraie valeur aujourd'hui? Ou est-ce que nous sommes trop libres dans le monde moderne jusqu'au point que la fidélité ne compte plus? Matthieu 25. C'est un passage que nous lisons de temps en temps, que nous connaissons, mais je crois que pour la question de la fidélité, nous avons des bons exemples ici, et même un châtiment associé avec un serviteur infidèle. Donc, lisons à partir du verset 14. Verset 14, Matthieu 25 et le verset 14. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donnait 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième. À chacun selon sa capacité. Pas selon, je vais juste insérer une petite parenthèse ici, c'était pas selon leur fidélité, forcément, qu'ils ont reçu ces talents. C'était selon la capacité, c'est ce qui est noté ici. Ils ont pas, c'était pas le jugement ici, c'était pour plus tard. Le jugement allait venir plus tard. C'est écrit ici, et il est parti. Il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. Donc, il a doublé les talents qui ont été donnés par le maître. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Donc, lui aussi, avec 2 talents, il a pu doubler la quantité, le montant. Verset 18. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Encore une fois, c'était pas vraiment l'argent à eux, mais l'argent de leur maître. Et le maître a eu confiance, ou il a donné confiance à ces personnes à s'occuper de ses talents, de son argent, lorsqu'il est parti. Donc, pour résumer, chacun a fait des choix vis-à-vis de ce qu'il avait reçu. Chacun a fait des choix vis-à-vis du talent ou des talents qu'ils ont reçus. Verset 19. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Donc, nous avons un moment de jugement, un moment de se rendre compte de qu'est-ce que vous avez fait, quelle décision avez-vous pris. Donc, nous allons tous rendre compte au grand maître un jour, n'est-ce pas? Tous les 3 serviteurs ici ont dû rendre compte. Puis verset 20, nous disons, celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. Donc il a rendu les 10 talents à son maître. Son maître lui dit, c'est bien bon et fidèle serviteur. C'est bien bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Verset 22. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Pardon. Tu as été fidèle en peu de choses. Et je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Donc, nous avons 2 hommes qui ont prouvé qu'ils sont de bons et fidèles serviteurs. C'est ce qui est écrit. C'est exactement ça. De bons et fidèles serviteurs. les bons et fidèles serviteurs reçoivent des remerciements. Puis le maître prononce un jugement positif sur eux. Entre dans la joie de ton maître. Il est très content avec ses deux serviteurs qui sont bons et fidèles. Passons maintenant au verset 24. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit: Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. J'arrête ici encore. Ce serviteur avait peur. Ce serviteur n'avait pas une très bonne perspective de son maître, qu'il était un homme dur, un homme qui moissonne où il n'a pas semé et qui amasse où il n'a pas vanné. Ce sont des choses qui ne sont pas positives vis-à-vis du maître. Il a eu peur. Est-ce que on peut avoir une confiance ou une fidélité à quelqu'un si on a peur? Est-ce que c'est ça que Dieu veut de nous? Est-ce qu'il voudrait qu'on soit toujours dans la peur, en train d'avoir peur de lui? Est-ce qu'il est toujours en train de nous faire peur pour nous garder de ne pas faire sa volonté, pour nous punir tout le temps? Ou est-ce que Dieu est bon et fidèle envers nous? Je crois que nous savons tous la réponse, mais notre réponse à cette question n'est pas la réponse du plupart du monde. Aujourd'hui, les gens croient que, et au moins souvent, ils disent que Dieu n'est pas bon, Dieu est dur. Dieu impose des règles. Dieu impose son autorité. Il est trop dur sur nous. Donc, au lieu d'avoir confiance en Dieu, au lieu d'être fidèle, on abandonne, on se cache de Dieu. Ce serviteur représente beaucoup, beaucoup de monde. Ce serviteur représente un serviteur, une personne non fidèle. Il a rendu le talent à son maître, en plus. Mais c'est le fait qu'il n'avait pas confiance et qu'il avait peur. Il n'était pas fidèle, c'est ce fait-là qui a fait qu'il n'a rien fait avec le talent que le maître l'a donné. Verset 26, son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Notre perspective de Dieu et sa fidélité envers nous nous pousse à faire des choix. C'est bien illustré avec la parabole des talents ici. Si nous sommes confiants en Dieu, si nous comprenons la fidélité de Dieu envers nous, le sacrifice de Jésus-Christ, le soin du Père, alors nous allons répondre avec une fidélité envers Dieu. Et si nous maintenons un doute, si nous sommes toujours en train de douter la fidélité de Dieu, douter l'intention de Dieu, malheureusement, nous n'aurons pas la possibilité de croître. Nous n'allons pas croître parce que nous allons cacher le talent. Nous n'allons pas mettre en place ou mettre en œuvre ce que Dieu nous accorde. Dieu est habitué, malheureusement, à l'infidélité des hommes. Les hommes, depuis le tout début, ne sont pas vraiment très fidèles en moyen. Mais nous ne sommes pas condamnés à l'échec non plus. Considérons Genèse chapitre 3 et le verset 22. Genèse chapitre 3, le verset 22. C'est un moment triste dans la création. C'est un moment triste de notre histoire humaine. Un moment où nos ancêtres n'ont pas eu fidélité, mais n'étaient pas fidèles à leur maître. L'Éternel Dieu dit, Genèse chapitre 3, le verset 22, l'Éternel Dieu dit, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous par la connaissance du bien et du mal, empêchant-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Une relation étroite avec Dieu a été coupée, a changé pour toujours. Depuis ce moment-là, la création en général est en rébellion contre son créateur. Ce n'est pas comme nous avons lu dans le psaume 145 où les œuvres de Dieu le loueront et les fidèles le béniront. Maintenant, considérons Luc chapitre 14. Nous avons un engagement. Nous avons pris un engagement en devenant membres de l'Église de Dieu. Nous avons eu la possibilité de se repentir. Nous avons demandé du conseil d'un ministre de l'Église et nous avons reçu le baptême et l'imposition des mains pour recevoir le Saint-Esprit. Considérons Luc chapitre 14 qui concerne notre engagement en tant que membre de l'Église. Ici, en parlant aux grandes foules, Jésus a expliqué la réalité qu'il y en a qui vont abandonner, bien pour des différentes raisons. Il prononce la parole bonne du grand souper, puis après il explique un point important concernant la fidélité de ses disciples. Luc chapitre 14 et le verset 27. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il y a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever, et que tous ceux qui le verront ne se mettant à le railler. Verset 30, en disant, cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achevé. Verset 31. Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. S'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède, ne peut être mon disciple. Jésus-Christ souligne l'importance, non pas seulement à considérer la dépense ou à calculer la dépense avant de commencer, mais je suis certain que ce passage nous permet aussi de revenir encore pour juger est-ce que nous sommes fidèles à cet engagement? Est-ce que nous restons fidèles à nos promesses envers Dieu, à notre promesse d'obéir, de suivre les pas de Jésus, de porter sa croix et de faire comme lui et de développer le caractère divin? Est-ce que nous restons fidèles dans ces choses? C'est sûr que c'est une question où, avant le départ, si vous voulez, avant de commencer cette magnifique voie qui mène à la vie, mais nous avons quand même la possibilité de se questionner, de se poser cette question-là. Est-ce que je suis toujours fidèle comme j'avais déjà dit, comme j'ai dit lorsque j'ai été baptisé? Est-ce que mon esprit, est-ce que je réfléchis à ma fidélité envers celui qui a été avant moi fidèle à moi lorsque j'étais encore pécheur? Pour la préparation de ces prémices, Dieu donne son Esprit Saint. C'est ce que nous avons reçu après le baptême. Dans le cadre de la construction d'une tour, c'est comme s'il nous donne les matériaux de construction. Dans le cadre du roi et de son armée, c'est comme s'il nous donne la victoire. Dieu nous aide à surmonter les épreuves, à surmonter la tentation de la vie et l'esprit du monde. Notre fidélité envers Dieu va nous encourager aussi de rester fidèles, d'avoir une fidélité exemplaire dans d'autres domaines de la vie. La fidélité envers l'Église de Dieu, envers nos frères et sœurs. Notre fidélité de Dieu nous aide à renforcer les liens de l'Église. Nous sommes là les uns pour les autres. Nous comprenons que Dieu travaille avec nous tous, que nous sommes là pour apprendre, pour croître. De temps en temps, les membres de l'Église passent par des épreuves et des fois, nous sommes relativement isolés, mais nous pouvons surmonter avec l'aide de Dieu, avec l'aide de nos membres, de nos frères et sœurs, nous pouvons surmonter les difficultés qui nous arrivent dans la vie. D'autres domaines, c'est clair dans le Nouveau Testament que nous sommes obligés de rester fidèles vis-à-vis des autorités. Les autorités, l'apôtre Paul et l'apôtre Pierre soulignent l'importance de la fidélité envers les autorités en place. Considérons Romains chapitre 13, Romains chapitre 13 et le verset 1. Romains chapitre 13 et le verset 1. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien et tu auras son approbation. Donc, il continue ici, Paul, à expliquer l'importance à rester fidèle aux autorités ou soumis dans ce cas-là, de ne pas être en rébellion tout le temps, mais d'être soumis aux autorités. Considérant Tite, chapitre 3, Tite, chapitre 3, c'est Paul qui écrit encore. Tite, chapitre 3 et le verset 1. Ici, Paul est en train de faire un rappel à Tite pour des instructions pour comment se comporter. Chapitre 3, verset 1, rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir, d'être prêt à toute bonne œuvre, de ne médire de personne, d'être pacifique, modéré, plein de douceur envers tous les hommes. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs, et nous haïssant les uns les autres. Dieu nous a appelés à quelque chose de meilleur que le comportement que nous connaissons dans le monde. Et c'est certain que nous vivons dans un monde de plus en plus rempli de haine. Un autre domaine pour la fidélité, nous devrions nous inspirer dans ce domaine, c'est la fidélité envers nos proches, envers nos enfants, par exemple. Si vous avez des enfants, est-ce que vous êtes toujours fidèle envers eux? On peut se demander comment peut-on démontrer notre fidélité envers nos enfants? Une chose très importante pour rester fidèle à nos enfants dans ce cas-là, c'est de concentrer ou consacrer le temps. Consacrer du temps chaque jour dans la mesure du possible pour développer nos enfants, pour parler avec eux, pour passer du temps avec eux. Nos enfants aiment beaucoup jouer aussi des fois, donc ce n'est pas interdit à nous, en tant que parents, c'est sûr, quand papa ou maman participe un peu avec un jeu ou quelque chose qui est amusant avec nos enfants, ça peut donner beaucoup d'inspiration, ça peut donner beaucoup de joie dans la vie d'un enfant, de voir ses parents jouer, s'amuser avec lui. Considérons pour juste un exemple de la Bible, Deutéronome 11, Deutéronome 11, verset 19. Deutéronome 11. Le cadre de ce passage, pour moi, est très important. Ça explique le domicile, ça explique le lieu de famille ici. Deutéronome 11 et verset 19. Vous les enseignerez à vos enfants et vous leur en parlerez quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Toute la journée, quand on passe du temps avec nos enfants, nous avons la possibilité de parler de la loi de Dieu, parler de bonnes choses, parler des choses qui sont meilleures que ce monde qui nous entoure. Nous avons aussi la possibilité de montrer l'exemple à nos enfants, de faire en sorte que notre maison soit un exemple de comment vivre selon la voie de Dieu. Pour ça, je trouve que le verset 20 est très intéressant. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. C'est une transformation. On peut le prendre comme ça aussi. Une transformation complète de la maison. Ici, chez moi, chez nous, nous observons la loi de Dieu, nous sommes soumis à l'autorité de la loi de Dieu et nous sommes fidèles. Nous sommes fidèles à celui qui nous a créés et nous sommes fidèles les uns les autres. Verset 21. Et alors vos jours et les jours de vos enfants dans le pays que l'Éternel a juré à vos pères de leur donner seront aussi nombreux que les jours de cieux, des cieux le seront au-dessous de la terre. Donc, en conclusion, d'abord, repentons-nous en Apocalypse, chapitre 2. En conclusion, Jésus-Christ a inspiré l'apôtre Jean d'écrire une exhortation à Smyrne. Apocalypse 2, verset 10. Mais commençons avec le verset 8. Apocalypse 2, verset 10. Et plutôt verset 8 pour commencer. Apocalypse 2 et le verset 8. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne, voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. L'Église de Smyrne faisait face à la tribulation, la pauvreté et des souffrances. Les nouvelles n'étaient pas bonnes, mais Jésus-Christ leur dit, sois fidèle. Sois fidèle. Comme les membres de l'Église de Smyrne et d'autres, notre récompense nous attend au retour du roi des rois. N'importe quelle chose qui nous arrive dans cette vie, souvenons-nous toujours de cette exhortation. Sois fidèle. Dans le mois à venir et les mois à venir, notre préparation pour la Pâque commencera. Réfléchissons-nous à la fidélité. Je vous ai proposé 3 perspectives différentes. Donc, réfléchissons bien à la fidélité de Dieu, la fidélité de Jésus-Christ envers le Père, la fidélité de Dieu envers nous, et bien sûr, réfléchissons bien sur notre fidélité à Dieu.